France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
En ce jour de finale du concours Eurovision, mon invité nous rappellera l'heureux temps où notre pays arrivait en tête avec des chansons en français comme Tom Pilibi. J'ai en effet la joie d'accueillir Jacqueline Boyer, championne de l'Eurovision 1960. 6 décennies plus tard, elle monte toujours sur les planches pour évoquer ses proches. Lucienne Boyer, Jacques Pils, Edith Piaf, elle est venue en compagnie de Philippe Padovani, complice de ce voyage à travers le temps. On les retrouve dans quelques minutes. Mais d'abord, je vous propose une petite leçon de physique.
Un petit atome qui se balançait dans une grosse molécule. Ce petit atome qui s'ennuyait craignait surtout le ridicule. Quand un photon vint le rencontrer, un gros photon dans l'infrarouge. Même infrarouge, un seul photon, ça peut rompre une liaison. Le petit atome ainsi balancé quitta sa chère molécule. Pauvre molécule décomposée, ça lui fait mal à la formule. Mais le petit atome, au fond d'un cristal, trouva bien vite une vacance. Ah, les vacances originales, quand les neutrons ouvrent le bal. Le petit atome au noyau fragile, connu des pépins fantastiques, de méchants hommes savants subtils en firent une bombe atomique. Il explosa, quel destin hâtif! Il mourut le petit atome. Oui, mais les hommes savants fautifs sont tous devenus radioactifs, tous radioactifs. Tous radioactifs.
En ces temps de débat sur le nucléaire, voici une chanson d'actualité, Le Petit Atome, écrit, composé et interprété par Paul Brafort. Il était à la fois ingénieur, grand spécialiste des questions nucléaires, entre autres, mais également membre du collège de pataphysique, ami de Raymond Queneau, compositeur de très nombreuses chansons. Je l'avais reçu voici quelques années pour évoquer ses chansons, Paul Brafort. Donc, nous avions même parlé il n'y a pas très longtemps au téléphone, et puis il nous a quitté le 4 mai à l'âge de 94 ans. Alors, je voulais lui rendre hommage, d'autant plus que les éditions Frémaux avaient publié un coffret de ses chansons voici quelques années. L'occasion d'en écouter une seconde, c'est la petite polka des escargots interprétée par les quatre barbus.
Papa, 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 papa. Voyez mesdames, voyez messieurs, cette chose vraiment curieuse. Voyez cette danse merveilleuse. Voyez ces petits animaux dont les pattes remuent. C'est la polka des tortues.
La polka des
tortues.
La polka des
tortues. Un étudiant désargenté qui voulait faire son droit au jardin des plantes s'engagea. Le jour il brossait les éléphants et la nuit venue, il faisait danser les tortues.
J'ai dansé les
tortues.
J'ai dansé les
tortues. Pa 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 pa.
Du monde entier, savants généraux et autres zazous se précipitaient vers le zoo pour voir ce spectacle qu'aucun d'eux n'avait jamais vu.
La belle polka des tortues,
la polka des
tortues,
la polka des
tortues.
Le pauvre jeune homme aimait la caissière du jardin des plantes,
mais cette caissière était l'amante
du gardien-chef grand moustachu, jalouse et rancunier.
Que les tortues torturaient,
les tortues torturaient, les tortues torturaient.
Par ces
ses propos, il vit si bien que la caissière fatale dit les tortues, mais c'est banal. Et c'est pourquoi le pauvre jeune homme qui était un peu loufoque se fit croquer par un phoque.
Se fit croquer par un phoque. Se fit croquer par un phoque.
Papa, 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 papa. Mesdames, messieurs, si notre chanson ressemble à Ruy Blas, ce n'est pas par hasard, hélas, car on ne trouve pas tous les jours un type comme Victor Hugo, car une tortue dans le cerveau,
une tortue dans le cerveau, une tortue dans le cerveau, une tortue dans le cerveau,
bon, 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 bon.
Cerveau dans le cerveau.
Voilà, et dans mon élan, j'ai remplacé les tortues par des escargots qui vont encore plus lentement. Enfin, voilà, c'est le principe. Une polka très très lente, chantée par les quatre barbus. Et une composition de Paul Brafort, à la fois poète, chanteur, écrivain, ingénieur, qui vient de nous quitter à l'âge de 94 ans. Fidgety Feet, c'est le nom de ce morceau interprété par Félix Slatkin et ses cordes fantastiques en 1963.
France Musique, Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Mais nous allons sans plus tarder retrouver mes invités. Elle, j'avais eu le plaisir de la recevoir voici quelques années déjà pour évoquer sa belle et riche carrière. Aujourd'hui, elle est de retour parce qu'elle a consacré tout à la fois un disque, un livre et maintenant un spectacle à trois vies extraordinaires, celle de Lucienne Boyer, Jacques Pils, Edith Piaf. Vous l'avez compris, je suis ce matin en compagnie de Jacqueline Boyer qui est venue elle-même accompagnée de Philippe Padovani.
Tom Pilibi a deux châteaux, le premier en Écosse. Tom Pilibi a deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi deux grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des ors et des coraux et les plus beaux joyaux. Tom Pilibi, Tom Pilibi a deux secrets qu'il ne livre à personne. Tom Pilibi a deux secrets, moi seul je les connais. La fille du roi lui sourit et l'attend dans sa chambre. La fille du roi lui sourit et la bergère aussi. Tom Pilibi, et suis son ami. Quelle bonne étoile veille sur lui. Quelle bonne étoile, sacré Tom Pilibi. Tom Pilibi n'a qu'un défaut, le mal n'est pas bien grave. Tom Pilibi n'a qu'un défaut, le mal n'est pas bien gros. Il est charmant, il a bon cœur, il est plein de vaillance. Il est charmant, il a bon cœur, mais il est si menteur. Je suis dans ses bras, car je suis reine du grand pays où il m'entraîne. Sacré Tom Pilibi.
Tom Pilibi, bonjour Jacqueline Boyer.
Bonjour Benoît, quel plaisir de vous revoir.
Mais quel plaisir pour moi aussi. Et puis, alors ça pouvait pas tomber mieux, aujourd'hui c'est le concours Eurovision. Le 29 mars 1960, j'étais pas vieux, j'avais 9 jours exactement.
Oui.
vous avez emporté le concours Eurovision.
Pour la France.
Pour la France, à l'époque ça arrivait de temps en temps, aujourd'hui ça n'arrive plus jamais. Mais ça a été une des plus belles victoires que celle de Tom Pilibi.
Oui.
Alors, moi j'avais 9 jours, vous étiez encore une très très jeune fille.
Très jeune, oui, je suis sur mes 18 ans. Voilà.
Vous alliez sur vos 18 ans et ça a été un succès extraordinaire, emporté au 13e...
13e position, 13e avec 13 pays à l'époque.
Enfin, ah, vous étiez passé en 13e.
Oui. Voilà. Alors le gag de l'histoire, enfin l'anecdote, à ce moment-là, il y avait grève d'avion déjà.
Ah bon, bah, vous voyez, rien ne change.
Et nous sommes partis en train et on me donne... pour rejoindre le bateau pour traverser.
Voilà, ça se passait à Londres.
À Londres, évidemment. Voilà, ouais. Et donc, j'ai le compartiment numéro 13, la place numéro 13, et je passe en 13e position. Et ce soir, Madame Monsieur passe en 13e position aussi. Alors.
C'est eux qui représentent la France. Et vous les soutenez alors?
Ah, tout à fait, à fond, depuis le début.
Ah, depuis le début.
Bon, j'adore cette chanson.
Bon, aussi, revenons quand même un petit peu à Tom Pilibi.
Oui.
Chanson d'André Pop,
un des grandes
et André figures Pop, de la chanson française qui nous a quittés il y a quelques années. Et Pierre Court. Pierre Court, c'était un parolier, poète.
Oui, absolument. Oui.
Comment est-ce qu'il vous a donné cette chanson? Comment elle est arrivée jusqu'à vous?
Écoutez, c'est pas moi qui ai décidé, c'est la grande maison ORTF qui a choisi les concurrents. Parce qu'au départ, c'était Marcel Amon qui devait le faire.
Qui devait chanter cette chanson pour le concours.
Je ne sais pas s'il devait chanter cette chanson, mais enfin, il devait faire l'Eurovision. Toujours est-il qu'il n'a pas pu le faire.
Oui.
Et on m'a choisi, moi, parce que j'avais fait mon premier disque avec Franck Pourcel en 59.
Avant, voilà.
Ça avait très bien marché. Et là, entre ma maison de disque et la maison de l'ORTF, ils ont décidé que la petite Boyer, ça serait pas mal pour représenter la France. C'est comme ça que c'est arrivé.
C'est un peu l'histoire de Cadet Roussel, en fait.
Absolument.
Tom Pilibi. Oui, c'était l'idée de Pierre Court, sans doute.
Tout à fait. Ouais. Et ça faisait tâche parmi les autres chansons qui étaient plutôt des chansons romantiques et d'amour, etc.
Ah,
moi, je suis arrivée, voilà.
Emporté.
Je suis arrivée avec ma petite robe de princesse et voilà. et Tom Pilibi, et voilà.
Et alors, vous étiez dans cette chanson sur une musique d'André Pop, en fait, accompagnée par l'orchestre de Franck Pourcel.
Franck Pourcel, qui a été le chef d'orchestre accompagnateur de maman pendant 8 ans. Il m'a connue toute bébé, en plus.
Il y a une transmission comme ça, formidable.
Oui, oui.
Hein.
Je n'ai que les gens qui ont travaillé avec maman, comme Bruno Cocatrix, qui a été mon parrain de métier, qui était l'impresario de ma mère et de mon père. Donc, quand maman a ouvert son cabaret Avenue Junot, ils sont venus m'écouter tous les deux, Franck Pourcel et Bruno Cocatrix. Et ils ont dit à maman, la petite maintenant, il faut qu'elle chante. Alors Franck Pourcel a dit, je ferai ses premiers disques, j'arrangerai ses premiers disques. Et Bruno Cocatrix a dit, je vais la mettre dans le spectacle de Marlène Dietrich au Théâtre de l'Étoile.
Oui, alors voilà. Ça, on va en reparler d'ailleurs.
Voilà,
dans un
c'est
instant.
Comme ça que ça a commencé.
Mais en tout cas, cette chanson, donc donnée à Londres pour la télévision, faut préciser aussi, à l'époque, il n'était pas question de playback, hein, c'était avec l'orchestre, le grand orchestre.
Mais on chantait tous en direct, je ne dis pas live, je dis en direct.
En direct, oui.
On chantait en direct avec 30 musiciens. Et oui, il fallait y aller là. Hein.
Alors, on va évidemment revenir sur vos chansons, Jacqueline Boyer, ce matin. On va aussi revenir sur ceux qui vous ont fait tel que vous êtes
Bien sûr.
Auxquels vous rendez hommage maintenant dans un livre, je l'ai dit, dans un disque, dans un spectacle, en compagnie d'un de vos proches, qui est Philippe Padovani. Bonjour,
oui,
Philippe Padovani.
Bonjour, Benoît. Bonjour.
Voilà. Alors, expliquez-nous qui est Philippe
Alors,
Padovani.
Alors, Philippe Padovani, d'abord, est un chanteur d'opéra, d'opérette, qui a une voix magnifique. C'est aussi un excellent metteur en scène. Et c'est un excellent partenaire et on se renvoie la balle sur scène puisque la histoire de trois vies extraordinaires est devenue une pièce en un acte.
Alors Philippe Padovani, vous n'étiez pas né non plus au moment du succès de Tom Pilibi.
Si, j'étais né, mais j'étais petit. Voilà,
oui,
j'étais
voilà.
petit, voilà. Mais je connaissais quand même Tom Pilibi.
Ah, vous connaissiez
la chanson ? Écoutait beaucoup de musique, de chansons à la maison et,
ouais.
et je... Fatalement, je connaissais pratiquement toutes les chansons, dont Tom Pilibi.
Dont Tom Pilibi. Ah oui, donc voilà, vous avez
rencontré
très tôt Jacqueline Boyer, bien avant de la connaître.
Oui. À l'époque où, à la radio, on passait quand même les chansons, les chanteurs français.
Bien sûr. Oui. Bah, on le fait toujours ici.
Oui,
hein.
très souvent.
Voilà, au moins dans cette émission.
Oui.
Alors, on se retrouve tout à l'heure pour parler de ce spectacle et aussi de tout ce que vous avez fait dans le domaine de l'opérette. Mais je propose d'abord qu'on remonte un peu, justement, dans le temps, avant la guerre.
Oui.
Puisque tu as une chanson de circonstance, la romance du printemps de Paris.
C'est la romance du printemps de Paris. Tout recommence, tout chante et tout sourit.
Bonjour ma très chère voisine,
monsieur mon voisin, bonjour.
Vous voilà tout s'illumine, le beau temps est de retour.
Comment marchent les affaires?
Mais pas mal du tout, merci. D'ailleurs, tout va bien, ma chère, puisque vous êtes ici.
C'est la romance du printemps de Paris. Le soleil dansera dans les jardins fleuris. Chanson câline au retour des beaux jours. Chanson divine. Le ciel descend par la fenêtre dans son habit bleu de gala.
Mais le courant d'air, dès qu'il pénètre, vous plante un corps.
C'est la romance du printemps de Paris. Tout recommence, tout chante et tout sourit.
Bonjour ma très chère voisine.
Dire quand on vous voit,
vous avez fort belle mine,
et c'est toi là qu'on est trois.
Rideau tiré, vitre close, que faisiez-vous donc, monsieur?
On s'en va chercher des roses lorsque l'on est amoureux.
C'est la romance du printemps de Paris, sa voix immense. On entend des chansons, ces jours de fête, pour les minimations. On en attend le jour oubli, les vieux chagrins, les vieux moments.
C'est la saison la plus jolie, la saison des amants.
C'est la romance du printemps de Paris.
Et là, nous sommes en 1937, avant votre naissance, donc
oui,
Jacqueline Boyer avec...
Oui.
Alors, c'est une opérette, La Belle Saison.
Oui, absolument.
C'est votre mère qui chante avec Pils et Tabé,
voilà.
Les fameux duettistes de l'époque, dont Jacques Pils qui deviendra votre père et le mari de Lucienne Boyer.
Mais
là, c'est un peu avant,
parce que
l'œuvre a été composée par Jean Delettre, compositeur oublié, mais qui à l'époque était le compagnon de votre mère.
Voilà, absolument. Ils sont restés pas mal d'années ensemble. Oui.
Voilà, c'est l'époque, on peut dire aussi, de la gloire de Lucienne Boyer,
oui.
La fin des années 30, elle est partout en France,
oui,
en Amérique.
Ah oui, l'Amérique, ça a continué tout le temps, jusqu'à... pratiquement jusqu'à la fin de sa vie.
Voilà. Et donc, à l'époque, votre père, lui, Jacques Pils, lui, était plutôt tourné vers Joséphine Baker.
Voilà, il devait se marier avec Joséphine. Et puis bon, il a rencontré maman, ils ont fait des tournées ensemble. C'était à l'époque de Pils et Tabet, bien entendu.
Oui, c'est ça.
Et puis donc, voilà, ils sont tombés en amour tous les deux. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Ils sont tombés en amour tous les deux.
Ils étaient très beaux quand même.
Ils se sont mariés.
Oui, en 39.
En septembre 39. Et vous êtes née en 1941.
Donc voilà, on peut le dire. Bah, écoutez, je suis une toute jeune fille.
Au cœur du monde vraiment de la chanson, du monde parisien de la chanson, dans lequel vous avez grandi, entre ce père et cette mère, qui, même s'ils se sont séparés un petit peu plus tard, puisque votre père, on va y revenir, a épousé ensuite Édith Piaf. Mmh. Mais donc, vous avez vraiment grandi au cœur de ce monde-là.
Mes premières tournées à 18 mois, voilà.
Et notamment, il faut rappeler que votre mère, Lucienne Boyer, n'était pas seulement une grande chanteuse, mais aussi une animatrice de cabaret.
Elle a eu beaucoup de cabarets, pas mal de cabarets. Et puis,
par exemple,
elle a eu Rue Volney, Philippe, elle en a eu plusieurs.
Hein. Il y en a eu trois.
Trois ou quatre. Le dernier dans lequel j'ai chanté, où elle m'a mis sur scène, c'est Avenue Junot.
Elle aimait bien, donc, animer un lieu, recevoir les gens.
Elle aimait bien recevoir les gens, avoir un public, faire découvrir des gens, parce que dans ses cabarets, elle a fait découvrir par exemple Mireille, oui. Loulou Gasté, Pierre Dudan, enfin elle a eu plein de gens qui sont venus chanter dans ses cabarets, bien sûr.
Mais elle avait du temps pour la petite fille que vous étiez ou c'était en plus? Non,
mais moi comme je les suivais tout le temps, donc moi ça me passionnait. Même toute petite, je connaissais le répertoire de Jacques et Lucienne Parker, même toute jeune.
C'était une mère affectueuse à
très sortir. Adorable, oui, très mignonne.
Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez quasiment fait vos débuts à 15 ans au Théâtre de l'Étoile, on peut dire avec Marlène Dietrich.
Mes premiers débuts, ma première scène, j'avais en 1956, là j'avais 15 ans, c'était en Hongrie. Maman faisait une très belle tournée en Hongrie et ça me passionnait d'aller visiter ce pays. Et ça, c'était pendant la période des vacances. Et maman m'a dit, écoute, t'as une condition, tu viens mais tu chantes trois chansons.
Voilà, pour payer ton voyage.
Voilà, pour payer ton voyage, enfin si on peut dire. Et donc je passais en surprise, quoi. Et c'est comme ça qu'elle m'a mis sur scène. Donc j'ai démarré en Hongrie, en chantant une chanson en hongrois. Et puis elle a ouvert son cabaret Avenue Junot. Parce que moi, normalement, je devais être comédienne.
Oui, c'est ça.
Je suivais des cours.
Votre père vous poussait plutôt dans cette voie-là,
d'ailleurs. Ah oui, il voulait que je rentre à la Comédie Française. Ouais. Alors, je travaillais avec Madame Dussane, Maurice Escande, Pierre Dux. Et je préparais mon conservatoire. Mais comme je chantais, malgré tout, que j'avais une jolie voix, je chantais juste. Maman m'a mis sur scène quand j'ai fait ce spectacle en Hongrie et ensuite son cabaret. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré.
Et puis un soir,
sont arrivés Bruno Cocatrix et Franck Pourcel pour m'écouter chanter. Et Bruno a dit, bon, la petite, il faut que je la mette sur scène. Elle va faire le Théâtre de l'Étoile en 59 avec Marlène Dietrich. Et Franck Pourcel a dit, moi, je veux la faire chanter et je serai son orchestrateur et je vais faire ses premiers disques. C'est comme ça que c'est parti.
Et Marlène, vous l'avez juste aperçue?
Non. Marlène, elle n'en revenait pas de toutes les fleurs qui arrivaient dans ma loge. Elle disait, à Bruno, mais qui est-ce qui...
Ah oui, alors que vous étiez juste débutante.
Qu'est-ce que c'est que toutes ces fleurs qui partent? Où ça va? Et Bruno a dit, mais c'est pour Jacqueline Boyer, la fille de Lucienne, de Jacques, et belle-fille. Il dit, oh, mais je veux la voir.
Ah bon?
Et au lieu de 10 minutes, je suis restée 1h30 dans sa loge où elle m'a tout raconté. Elle m'a donné plein de conseils, ce qu'il fallait faire et pas faire, comment s'habiller, comment chanter. Le respect du public, savoir ses textes sur le fil, enfin bon, la cuisine, les hommes, le sexe, enfin tout.
Tout.
Comme Edith, pareil, et maman, pareil, voilà.
Bon, vous avez cité Edith Piaf, justement, tiens, on va retrouver Edith Piaf en duo avec votre père, devenu son mari,
oui.
Et quelques années plus tard, là aussi, je trouve que c'est une très jolie chanson.
Il y a des chansons qui font un grand succès, c'est parce que la musique en est très populaire.
Quand il me prend dans ses bras, quelque chose dans ce genre-là.
Oui, voilà, c'est pas mal ça. Il y a des chansons qui font un grand succès, c'est parce que les paroles ne sont pas ordinaires.
Et sa gueule, sa madame.
Tiens, j'ai entendu ça quelque part. Il y a des chansons qui font un grand succès, c'est parce que l'interprète est extraordinaire.
C'est presque toujours ça.
mais la mienne n'a pas tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour qu'elle soit jolie ma chanson, il faut avant tout être deux. Il y a bien sûr un garçon et une fille pour le rendre heureux. Si vous me prêtiez votre voix pour chanter avec moi cette chanson d'amour, mais elle n'a rien d'original, c'est tout à fait normal qu'elle rime avec toujours.
Je regrette pour la chanson, mais il y manque un je ne sais quoi. Et vous pourrez dire au garçon que cette chanson n'est pas pour moi.
Je vois bien ce qu'il vous faut, un port et un matelot, des bagarres dans un bar, rien que des trucs sinistres. Un pauvre type que l'on pend, des gens qui parlent haut, un monsieur distingué, un accordéoniste. J'ai même entendu dire, c'est par trop fantaisiste, que vous chantiez un clown. Eh bien, bravo pour le clown.
Non, non, mais dites donc, vous m'engueulez.
Oh, excusez-moi, je me suis laissé un petit peu emporter.
Alors, à votre avis, cette chanson serait pour moi?
Mais oui.
Eh bien, écoutez, rechantez-la moi.
Pour qu'elle soit jolie ma chanson,
il faut avant tout être deux.
Il y a bien sûr un garçon et une fille pour le rendre heureux. C'est ça, prêtez-moi votre voix pour chanter avec moi cette chanson d'amour. Mais elle n'a rien d'original, tout compte fait c'est pas mal qu'elle rime avec toujours.
Quelle est donc jolie ma chanson, car je la chante malgré moi. Et vous pourrez dire au garçon que cette chanson.
Édith Piaf avec Jacques Pils. Alors, c'est une chanson coécrite par Édith Piaf et Louis Guy avec l'orchestre de Robert Chauvigny, votre père, Édith, qui dialogue finalement pas très longtemps après leur mariage, puisque là, c'est en 53. Ils sont
mariés en 52.
En 52, voilà.
Ils se sont rencontrés en 52 suite à la présentation de Jeter dans la poule. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé.
Il faut vous préciser d'ailleurs que cette chanson, on la retrouve aussi dans un film. Hein,
oui, Boom sur Paris.
Boom sur Paris, donc on peut les voir tous les deux dans cette scène.
Mon père au piano et Edith à côté en train d'écouter la chanson, oui.
Voilà. Alors, précisons que, en fait, votre père a quitté votre mère pour Édith Piaf, mais pour autant, ça ne s'est pas passé dans un conflit.
Il n'a pas quitté maman pour Édith Piaf, il a quitté maman tout simplement parce qu'ils ont divorcé. Et à ce moment-là, il avait écrit une chanson, il faut que je dise l'histoire, la véritable histoire de Jeter dans la peau. En réalité, Jeter dans la peau, il l'avait écrite pour maman.
Avec Gilbert Bécaud.
Avec Gilbert. Non, il avait fait le texte.
Oui, c'est
d'abord.
Ça. Ouais.
Et maman l'a refusé parce que, bon, comme ils allaient divorcer, elle n'a pas accepté la chanson. Donc, Jacques est reparti avec le texte sous le bras. Et à ce moment-là, il rencontre un jeune garçon qui s'appelle François Silly, qui deviendra Gilbert Bécaud, et qui deviendra son pianiste.
Voilà, c'est
ça. Ils partent aux États-Unis, ils partent au Brésil, ils partent au Canada. Et au retour de cette grande tournée, Gilbert a fait une musique et sur Jeter dans la peau. Mais à qui l'a présenté? Quand ils sont rentrés à Paris, mais à qui l'a présenté? C'est le manager de Jacques qui avait dit, mais faut la présenter à Edith. Et ils n'osaient pas trop, ils étaient timides pour aller voir, ça sera difficile de la rencontrer, etc. Finalement, c'est ma tante Simone qui a décidé en disant, mais si, allez-y, etc. Finalement, le rendez-vous est pris, et ils arrivent chez Edith. Évidemment, Edith regarde les deux garçons car ils étaient très beaux. Et bon, elle écoute les deux garçons chanter, jouer au piano. Elle dit à Gilbert, vous avez beaucoup de talent, il paraît. Et Jacques, bon, bah, Jacques chante la chanson. Edith écoute la chanson. Après l'avoir écoutée, elle leur dit, bon, elle me plaît, on l'enregistre. Revenez demain, on va la travailler. Le lendemain, les garçons reviennent. je vous la fais courte, hein, parce que bon, il y a une autre histoire à côté. Et il rechante la chanson, et au moment de partir, elle prend Jacques par le bras, lui dit « Toi, tu restes ici pour dîner. » Et c'est comme ça que ça s'est fait, et Gilbert a dit « Bon, ben, père, d'accord, j'ai compris. » Voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Donc, en fait, votre père était déjà séparé de votre mère à ce moment-là. Et de fait, votre mère et Edith Piaf avaient des bonnes relations qu'elles ont continué d'avoir par la suite.
Elle s'appelait Lulute et Didite. Alors, quand on allait boulevard Lannes, il y avait Lulute, Didite, Marinette Cerdan. Enfin, c'était la roulotte, quoi. Il y avait plein de...
Mais Edith a quand même peut-être été un tout petit peu, je dirais presque intimidée, quand votre père vous a présenté.
C'est-à-dire quand nous nous sommes présentés toutes les deux.
Vous aviez 11 ans, hein. Vous viviez avec votre mère, donc voilà.
Et elle m'a regardée. Hein, puis je crois que ça, on est tombés en amour toutes les deux tout de suite. Alors, je lui dis, je peux t'appeler mamie, appelle-moi mamie, oui. Comment je t'appelle? Je dis, tu sais, on m'appelle Poussin, je t'appelle Poussin. C'est comme ça, c'est resté Poussin jusqu'au bout.
Et vous êtes allé beaucoup,
Oui, jusqu'au bout. J'ai vu Edith jusqu'à la fin. Elle m'a vu gagner l'Eurovision.
Voilà,
et quand je suis
allée
la voir
après
avoir gagné l'Eurovision, elle m'a dit, bon, mon Poussin, maintenant, il va falloir que tu te fasses un prénom, parce que c'est pas facile, avec les antécédents. Elle me dit, il va falloir que tu t'y mettes. Mais bon, non, elle me surveillait, elle m'écoutait chanter, elle me donnait des conseils, oui, bien sûr.
Alors, en fait, votre père, bon, on a compris avec votre anecdote qu'Edith Piaf aimait les hommes, on le sait, et qu'elle en a eu beaucoup.
Elle est bonne.
Ça n'a pas non plus duré des dizaines d'années avec Jacques Pils.
Au bout de 3 ans, il fallait qu'elle passe à quelqu'un d'autre.
Ah, c'était 3 ans.
Oui. Mon père a fait 4 ans. Bon, Théo a été jusqu'au bout. Mais enfin, ça a été les deux officiels.
Elle n'a été mariée que deux fois, avec votre père et avec Théo Sarrapo.
Papa en premier et Théo ensuite, oui.
Vous disiez que votre mère avait tenu des cabarets pratiquement jusqu'à la fin
jusqu'à
de sa vie.
Le dernier cabaret, c'était le cabaret en 58-59, au moment où j'ai gagné l'Eurovision, après l'arrêté. Oui.
Après l'arrêté. Et la vieillesse de Jacques Pils, ça s'est passé comment?
La vieillesse de Jacques Pils, si vous voulez, il a fait beaucoup de tournées, il a chanté un peu partout, beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Amérique du Sud. Il a fait plein de disques, il a fait des films aussi, beaucoup. Et puis après, quand il a décidé d'arrêter... Eh bien, Bruno Cocatrix lui a dit, écoute, on va faire une école de chant, dont tu seras le directeur. Et ça a été l'école de chant
de
l'Olympia.
Dont votre père s'est occupé.
Voilà, absolument.
Il est resté un père attentif, toujours?
Je ne le voyais pas trop souvent, parce qu'il était toujours par Mont et par Vaux. Mais on se voyait. Si, il a été... Mais j'étais beaucoup plus avec maman, hein, bien sûr.
Et son partenaire, moi j'adore le duo Pils et Tabet, ils étaient restés amis?
Ah oui, je pense, oui, ils se voyaient, oui, bien sûr. Ben, Georges, par la suite, faisait beaucoup de dialogues avec son frère André Tabet.
Absolument, hein. Oui, notamment pour Gérard Rouge.
Oui. Non, ils se voyaient, non.
Bon, alors j'ai trouvé, vous qui êtes la fille de deux grands chanteurs de Paris, et que c'était bien normal que vous ayez aussi chanté la poésie de Paris, par exemple dans cette chanson de Jo Moutet en 1961.
Malgré les ans, c'est toi toujours le beau troubadour de ce temps qui court avec des rêves plein la tête. Paris poète. Lorsque tu mets sur tes vieux murs la joie sans mesure d'un rayon d'azur, ils ont tout de suite un air de fête. Paris poète, Paris poète, tes doux printemps sont si jolis qu'on en voudrait pour ciel de lit. Elle est si riche, ta palette, Paris poète. Tu prends une fille du faubourg, tu l'habilles court, avec tant d'amour que par ta grâce elle est parfaite. Paris poète, Paris poète, dans tes ruelles on a rêvé. Sur tes vieux pavés, où reste gravé tout un passé que l'on regrette, Paris poète. Jadis Verlaine est passé là, matin tout bas, le bruit de ses pas lorsqu'il était ton interprète. Paris poète, Paris poète, sous la lumière de tes néons, il y a des sanglots d'accordéon qui vous déchirent. Saint-Louis, quand on ouvre lui et nous éblouit, monte une chanson que rien n'arrête. Paris poète, Paris poète.
Voilà, là vous aviez grandi depuis le concours Eurovision, puisqu'on est un an plus tard. En 1961, Jacqueline Voyer, très jolie chanson. Vous me disiez que c'était notre ami Marcella Zola, probablement, oui, qui était à l'accordéon, dans l'orchestre de Joe Moutet.
Oui, absolument. Mais il nous arrivait d'avoir Marcella Zola. Des fois, on avait Madame Lili Laskine à la harpe.
Ah, oui, c'était pas
on
mal.
Avait, on avait aussi Maurice André à la trompette. Enfin, on avait des grands noms quand même. C'était des belles séances.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'au fond, parce que vous avez fait des chansons très, très diverses, mais que vous cherchiez, comme tout artiste, un petit peu quel était votre style, votre voix, même. Vous me disiez, on vous poussait souvent dans le registre très aigu et léger, comme ça.
C'était pas moi qui décidais pour les chansons à l'époque. Ouais. J'avais un directeur artistique et qui choisissait les chansons pour moi. Donc j'avais pas tellement mon mot à dire. Et des fois, je me trouvais devant des chansons que je n'aimais pas et on me faisait chanter avec la voix très haute que je n'aimais
pas. Au perché, on voulait vous attribuer cette couleur.
La voix
là,
cristalline
comme ça.
De Jacqueline Voyer, la voix cristalline.
Et c'était pas forcément ce que vous préfériez.
Non, pas vraiment, mais bon.
En tout cas, vous avez, oui, je le disais, aussi essayé des genres assez divers, la chanson légère, la chanson sentimentale, mais il y avait aussi la vogue yéyé à ce moment-là. Comment vous avez vu ça, vous, cette arrivée
soudaine de toute votre génération. Je suis partie très vite en Allemagne parce que la mode yéyé, ils m'ont dit, on n'a pas besoin de vous
ici.
Vous chantez trop bien, vous chantez trop juste. Allez, dehors. Et vous avez une jolie voix, ça ne va pas, ce n'est pas la mode.
Ce qui ne vous empêche pas d'aimer Johnny ou
Eddie
Mitchell.
Non, absolument, j'adore, bah, bien sûr. Johnny, Eddie Mitchell, enfin tout.
Et François Hardy, vous les avez tous cités quand on parlait ensemble.
Mais bon, et je suis partie en Allemagne.
Oui.
Puisque Tom Petty B, enregistré en Allemagne,
a fait un tabac énorme. Revenir à la carrière allemande. Mais alors, avant d'avancer un petit peu, je voudrais aussi, je me tourne à
parlons
nouveau
de Philippe quand
vers
même.
Philippe Padovani. Avant de parler de tout ce que vous avez fait, Philippe Padovani, oui. D'abord, donc, tout ce que vous venez de nous raconter, Piaf, Pils, Lucienne Boyer, c'est le sujet d'un spectacle que vous donnez ensemble en ce moment.
Tout à fait.
Et que vous mettez en scène.
Je mets en scène Trois vies extraordinaires, dont Lucienne
Boyer. Vous avez créé il y a quelques mois.
On a créé au mois de décembre, qu'on va reprendre à la rentrée, oui.
Voilà, ça s'appelle
Histoire de trois vies extraordinaires.
Et c'est tiré du livre.
Voilà, du livre que vous avez écrit, du disque que vous avez écrit. Voilà. Vous vous étiez déjà rencontrés
Oui, on a joué ensemble une très jolie spectacle musical.
Oui, Parlez-moi d'amour, mon pote le gitan.
Parlez-moi d'amour, je rappelle, c'était un des grands succès de Lucienne Boyer.
Et mon pote le gitan était une chanson qui avait été écrite par Jacques Verrières aussi.
Pour Jacques, mon père.
Voilà. Et nous l'avons fait sous chapiteau. Et c'était très intéressant parce qu'on mêlait la comédie et les arts du cirque.
Ouais.
Et la voix, bien évidemment. Oui.
Ah, c'est superbe. Oui.
Et dans Histoire de trois vies extraordinaires, alors vous êtes tous les deux sur scène?
Alors on est trois sur scène. En fait, il y a un accordéoniste, Jacqueline et moi. Et ça se passe dans un salon. Donc on va imaginer que c'est le salon de Jacqueline à Paris. Et elle doit faire sa rentrée parisienne et elle n'a pas envie de chanter ses chansons habituelles. Elle veut quelque chose de nouveau, dit-elle à son accompagnateur, accordéoniste. Et alors, ses prétextes, donc on arrive, on choisit. Puis elle va dans sa bibliothèque, elle a une boîte en carton qui tombe. Bien évidemment, toutes les photos de sa mère, de son père apparaissent, Edith Piaf apparaissent.
On les voit d'ailleurs dans le spectacle.
Voilà, on les voit derrière, elles sont projetées. Et subitement, le déclic, ça y est, je sais ce que je vais faire, je vais parler de l'histoire de mes parents. Et voilà, le spectacle est né et on construit le spectacle sous les yeux du public.
Voilà.
Vos trois parents, ce qui est assez rare, finalement, Jacqueline
Boyer. Ah oui, ça. Et croyez-moi, il y a de quoi faire et de quoi dire.
Alors, on va revenir évidemment à la vie et aux souvenirs de Jacqueline Boyer dans un instant. Mais puisque vous êtes là aussi, Philippe Padovani, j'ai noté avec joie que vous étiez un vrai passionné d'opérette.
Depuis tout petit. Oui. Moi, je suis du sud. Je suis né à Toulon et je crois que de l'âge de 5 ans jusqu'à ce que j'arrive à Paris en 82, j'étais à l'Opéra de Toulon, je les ai tous vus. Toutes les personnes que vous recevez, mon cher Benoît, ici, je les ai applaudis, après j'ai joué avec eux, je les ai même mis en scène.
Justement, ça tombe bien, parce que pour faire une petite parenthèse opérette, justement, j'ai choisi, je crois que vous les avez connus tous les deux, d'ailleurs l'une d'elles est toujours une de nos chères amies, j'ai choisi un petit duo entre Jean Giraudeau et Nicole Broissin.
Ah, Nicole Broissin, oui. Comment je connais Nicole Broissin, bien sûr. Elle m'a donné des cours d'opérette et elle m'a même mis en scène dans mon premier Danilo. Joyeuse.
Et Jean Giraudeau.
Et Jean Giraudeau, j'avais rencontré au concours de Marmande. Voilà. Et puis il m'avait remarqué et il m'avait donné la Belle de Cadix, le rôle de Ramirez. Il avait le café de la Porte d'Italie à Toulon. Il montait des opérettes, des mélodies, des concerts, des récitals. Il m'avait engagé. Voilà. Peu de temps avant sa mort d'ailleurs.
Et il nous entraîne alors donc en duo avec Nicole Broissin à Bougival.
Quand je te vois en songe et que mon bel œil plonge dans ton splendide œil sans pareil, il me semble Ernestine, il me semble Ernestine, que j'ai dans la poitrine comme une tranche et comme une tranche de soleil. Ah, 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 ce discours que l'amour m'inspire n'est pas trop mal.
N'est pas trop mal.
Tout ça vient de l'air qu'on respire à Bougival.
À Bougival.
À Bougival.
À Bougival. Mon Roméo, mon maître, pour toi je voudrais être une Julie. Cœur ardent, ce doux pensée me grise, ce doux pensée me grise. Que ne suis-je Héloïse d'Abélard,
hein?
D'Abélard avant l'accident. Que l'amour m'inspire n'est pas trop mal.
N'est pas trop mal.
Tout ça vient de l'air qu'on respire à Bougival.
À Bougival.
À Bougival.
À Bougival.
Un extrait de La Souris Blanche de Léon Vasseur, compositeur oublié du 19e siècle, chanté par Jean Giraudeau et Nicole Broissin. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler que Nicole Broissin vient de sortir un livre de souvenirs, très joli livre, intitulé « Du couvent à l'opérette » aux éditions du Alpha. Moi, je viens de le recevoir, je ne sais pas s'il est déjà en vente, mais en tout cas, je la recevrai dans quelques temps, probablement pour une des premières émissions à la rentrée, pour nous parler de ses souvenirs et de ce livre de Nicole Broissin, donc « Du couvent à l'opérette. Alors, Philippe Padovani, vous avez fait beaucoup de choses dans le domaine de l'opérette. On pourrait citer encore parmi ceux qui se sont passés ici, je crois que vous étiez proche ami Bernard Sinclair.
Bernard Sinclair, j'ai vu Bernard Sinclair il y a 3-4 ans avant sa mort. J'ai chanté
Le Chevalier des Mers. Le Chevalier des Mers, que vous avez reprise.
Très difficile à chanter. Et il avait été assez satisfait de mon interprétation. Voilà.
Voilà. Et puis vous avez aussi votre propre compagnie.
Alors oui, c'est une association que j'ai reprise qui s'appelle Tremplin Jeunes Talents Lyriques, qui avait été créée par Michel Herbet, que vous connaissez bien sûr de l'opéra. Et Bon, comme Michel est parti, donc j'ai souhaité continuer l'association. Donc on fait appel, on fait des concerts avec de jeunes chanteurs très prometteurs, entourés d'artistes un peu plus confirmés. Et voilà, on monte Mireille, un spectacle sur Maria Callas, sur Pavarotti. Voilà.
Et puis donc. Vous êtes ensemble avec Jacqueline Boyer.
Voilà. Nous sommes ensemble, voilà.
Pour ce spectacle qu'on espère revoir donc à partir du mois d'octobre, je crois.
Oui, il est programmé le 11 octobre à Charleroi.
Histoire de trois vies extraordinaires. Et il y a quelque chose qui vous rapproche à travers l'opérette, tous les deux, c'est que vous avez été aussi, vous, Jacqueline Boyer, chanteuse d'une des dernières grandes opérettes du Châtelet, au temps de Maurice Lehmann.
Vous vous rendez compte? Oui. Où j'avais pour partenaire Michel Cadieu, quand même. J'avais aussi Dominique Tirmont, il y avait Christian Marin. Entre autres.
Christian Marin, le charmant Christian Marin, qui aimait beaucoup l'opérette lui aussi. C'était mis en scène par Maurice Lehmann lui-même.
Oui, non, c'était Marcella Charles, Jean-Michel Damas, et je crois que c'était, je ne sais plus qui était le metteur.
Donc c'était au Châtelet, ça s'appelait Eugène le Mystérieux, voilà. Musique de Jean-Michel Damas, merveilleux compositeur, et livré de Marcella Charles. C'est lui qui vous avait repéré.
C'est lui qui avait téléphoné à mon agent et qui avait vu maman. Oui, je veux la petite.
Encore la petite, pourtant on est en 64.
Oui,
65,
mais la petite, j'étais la petite. Il me faut la petite. Elle sera très bien dans le rôle de Fleur de Marie, donc voilà.
En 64. Fleur de Marie, donc c'est l'héroïne féminine, le héros c'était Michel Cadieu, Eugène. Donc c'est tiré évidemment des mystères,
mystères de
Paris.
Voilà.
Donc c'est vraiment l'opérette à grand spectacle, il y avait plein de tableaux
de
Paris.
Oui, avec les chevaux sur scène, enfin il y a les barricades, enfin c'était extraordinaire quoi, c'était formidable.
Et vous étiez heureuse donc j'imagine de vous lancer au théâtre.
Moi j'étais ravie.
Finalement vous pouviez combiner votre première vocation de comédienne avec la seconde vocation de chanteuse.
C'était très plaisant. C'était très plaisant de faire la comédie et de chanter des airs un petit peu d'opérette. C'était très très bien. Et je m'en étais très bien sortie. J'étais très
joliment habillée.
Oui, oui, des belles robes. Oui, à crinoline et tout. Non, c'était magnifique.
Ça a malheureusement pas été un grand succès.
Dommage.
Je me rappelle que Jean-Michel Damas regrettait beaucoup.
Oui. On a tous regretté parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé. Et on était tellement contents, heureux. De faire ce spectacle ensemble, mais bon.
Ça a quand même fait 3 mois.
Oui, mais enfin, tout de même, c'est pas beaucoup.
À l'époque, c'était pas beaucoup, non, c'est vrai. Aujourd'hui, pour une opérette, ça paraîtrait énorme. Hein.
Oui,
mais bon.
Oui.
3 mois de Gêne le Mystérieux au Châtelet en 1964. Il nous en reste aussi un disque. Alors, on va écouter votre air d'entrée, Je ne vends que mes fleurs.
Oui.
Ça vous va?
Oui, da 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 di.
Il y a des filles qui vendent leur sourire et leurs lèvres aux baisers menteurs. Il y a des filles, plus qu'on ne peut dire, qui vendent leur cœur. Il en est qui vendent leurs caresses et leur corps avec leur honneur. Moi qui ne suis qu'une petite pauvresse, je ne vends que. Il y a des mondes qui s'appellent Violette, il y a des mondes qu'on baptise Flora, Marguerite ou bien Pâquerette, Rose ou Rosa. Moi mon nom c'est Fleur de Marie, c'est joli, ça sent la fraîcheur, et ce nom-là m'a donné l'envie. Des filles qui vendent leur sourire et leurs lèvres aux baisers menteurs. Il y a des filles, plus qu'on ne peut dire, qui vendent leur cœur. Il en est qui vendent leurs caresses et leur corps avec leur honneur. Moi qui ne suis qu'une petite pauvresse, je ne vends que. Achetez-moi pour vous satisfaire du jasmin, des roses, du muguet. Choisissez dans mon éventaire un petit bouquet. Ça vaut bien une journée de campagne, ça embaume et ça porte bonheur. Messieurs, pour plaire à vos compagnes, offrez-moi. Leur sourire et leurs lèvres aux baisers menteurs. Il y a des filles, plus qu'on ne peut dire, qui vendent leur cœur. Il en est qui vendent leurs caresses et leur corps avec leur honneur. Moi qui ne suis qu'une petite pauvresse, je ne vends que
très jolie air d'entrée de Fleur de Marie, Jacqueline Boyer.
Ah, oui.
Et vous nous disiez hors antenne et tout ça en direct. Je voulais dire que c'était en une prise avec l'orchestre,
oui, orchestre
comme ça.
En direct, pas playback, s'il vous plaît.
Ben oui, on apprécie.
Un, deux, trois, on part. Allez, hop.
Philippe Padovani, vous aviez même une explication qui me semble assez bonne pour dire pourquoi cette opérette a peut-être pas tellement marché au moment où Lopez, etc., triomphait
au Châtelet. Je pense que c'était trop raffiné. C'est la musique française du début du 20e, trop raffiné. Et il y avait quand même Francis Lopez à l'époque, après 45, hein, donc,
voilà, donc qui tient le haut du pavé. Un genre d'opérette plus accrocheur.
Voilà. Certainement très belle, à grand spectacle, mais pas pour le public de l'époque qui est habitué. C'était les Espagnolades.
Et oui,
même
s'il
y a de très belles opérettes de Francis
Lopez. Mais on est bien d'accord. Là, en tout cas, c'était Eugène le Mystérieux sur la scène du Châtelet.
Et on disait Eugène le Bide Sérieux.
Le Bide Sérieux.
Oui, ah ben, oui.
C'est terrible.
C'est affreux.
Alors, malheureusement, vous disiez, bon, les yéyés, ça n'a pas été trop positif pour vous. Il y a eu aussi un drame qui est arrivé quelques années plus tard, en 1966. Ça a été cet accident.
J'ai eu un grave accident de voiture. J'ai été blessée à la tête. J'ai été amnésique pendant 4 ans.
4 ans ?
Ouais.
Ça doit
j'ai d'ailleurs toujours des trous. Il y a certaines choses dont je ne me souviens pas.
Hein. Ah ben on ne s'en aperçoit pas quand vous venez ici. C'est ça qui...
Et pour remettre ma mémoire en marche, j'ai enregistré en allemand. Je suis partie en Allemagne. Donc voilà.
Alors, d'ailleurs, en préparant l'émission, je regardais un petit peu et j'étais sidéré, par exemple, par le nombre d'apparitions que vous avez fait dans des films, des émissions de télévision en Allemagne. Là-bas, vous êtes vraiment une incarnation de la chanson française.
Je suis Miss Mitsou là-bas. Hein.
Miss Mitsou,
Miss
Mitsou. On va expliquer
pourquoi. En France, c'est Tom Pilibi et en Allemagne, c'est Mitsou.
Mais on va l'écouter parce que moi, j'adore. Alors, on ne la connaît pas en France, bizarrement. Hein.
Ben non. Mais... Si, il y en avait un qui aimait beaucoup la chanson, c'était Henri Salvador.
Ah bon.
Et qui me l'a fait interpréter. Il avait fait les paroles par Maurice Pont. Et c'était bijou, bijou, bijou.
Ah.
Il m'appelle son bijou. Il adorait cette chanson. Voilà.
Et alors, mais vous avez appris l'allemand, parce que quand on devient populaire dans un pays,
mais
il faut pouvoir faire des.
Il a bien fallu que j'apprenne l'allemand. Mais au départ, j'ai appris l'allemand phonétiquement. Puis après, bon, à force d'y aller tout le temps, ça y est.
Voilà. C'est... Et alors, il y avait des clubs de fans, Jacqueline Boyer, dans les villes allemandes.
Ça continue aujourd'hui. Oui. C'est incroyable, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Suisse, que ce soit l'Autriche.
Tous les pays de langue allemande
continuent
avec raison
toujours,
donc à suivre vos chansons. Bah, je propose justement, alors qu'on écoute cette Mitsou, elle est venue comment cette chanson
Elle est venue tout simplement après Tom Pilibi, qui Tom Pilibi en allemand avait fait un énorme succès aussi.
Mais qui vous l'a écrite, Mitsou?
Christian Brun qui me l'a écrite. Quand j'ai entendu cette chanson-là, j'ai dit, oh, ça va faire un tube. Moi, je m'étais pas trompée. Dans 63 aussi, ça.
Es war am Fujiyama, im Kirchenparadies. Er war aus Yokohama und fand sie einfach süß. Mitsou, 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 mein ganzes Glück bist du, denn Kimono trägt keine so schick wie du alleine. Mitsou, 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 was sagst denn du dazu? Ich weiß für uns beide, das wär so schön, Mitsou. Mein ganzes Glück bist du, Laternen in den Bäumen, die laden ein zum Träumen. Mitsou, Mitsou, Mitsou.
Was sagst denn du dazu? Wir wollen nicht versäumen von großem Glück mit zu. Heute Abend ist Laternenfest, was sich manches gut bereden lässt. Wenn der Mond scheint in der Lotuszeit, ist die Liebe nicht mehr weit. Mitsu, 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 mein ganzes Glück bist du. Labiose fallen wegen und hoffentlich kein Regen. Mitsu, 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 komm doch zum Rendezvous. Und hast du nichts dagegen, dann küsse ich dich mit zu. Es war am Fujiyama zur Kirschenblütenzeit. Da nähte sie aus Seide ein weißes Hochzeitskleid.
Mitsu, Mitsu.
Mitsu, Mitsu, hein.
Un million de disques vendus en Allemagne, Jacqueline Boyer, depuis 1963, de cette chanson qu'on connaît peu en France. Mm-hmm. Mais vous disiez, Philippe Padovani, vous avez remarqué popularité de cette chanson en Allemagne.
Oui, en Allemagne, elle est chantée dans toutes les écoles primaires, parce qu'elle est très ludique. Donc, les professeurs des écoles peuvent faire chanter, danser et jouer les enfants cette musique. Et même dans les bacs, elle est encore rééditée.
Comme quand j'ai été chantée au Japon, Tom Piliby était chanté dans les écoles.
Ah
au
oui,
Japon.
C'est drôle. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'on a tellement oublié en France que représentait la chanson française dans beaucoup de pays.
Dommage.
Mais voilà, bon, c'est comme
on
ça.
On espère que ça va bien se passer ce soir.
Ce soir, voilà, puisque vous soutenez nos candidats au concours Eurovision. Alors, dans les années néanmoins qu'ont suivi Tom Piliby, vous avez beaucoup tourné quand même en France et beaucoup rencontré d'artistes.
J'ai eu le privilège de travailler avec des gens super.
Vous avez connu de près. On pourrait en évoquer quelques-uns.
Il y a eu Charles Aznavour, il y a eu Gilbert Bécaud, Brassens.
Mais racontez-moi plus en détail, par exemple, Jacques Brel qui vous faisait écouter ses premières versions des Biches, c'est ça?
Oui, oui, je faisais une.
C'était à quel moment?
C'était dans les années 60, pas loin de 70. J'avais fait une grande tournée avec lui. Et tous les soirs, au sortir de scène, il avait son petit cahier et puis il écrivait les Biches. Et un jour, il me montre son cahier, il me dit « qu'est-ce que tu en penses ?» Et je dis « oh, c'est superbe et tout. Ouais, » ouais. Voilà. Et j'ai eu le plaisir avec Brassens, très timide Brassens et moi aussi. Alors,
timide Brassens ?
Très timide, oui, c'est un monsieur très timide. Et il ne savait pas quoi me dire, alors il a pris sa guitare, il a commencé à chanter toutes les chansons depuis le 7 avril.
C'est ça qu'on ne sait pas toujours, c'est que Brassens effectivement connaissait très bien la chanson d'avant-guerre, il aimait le musical.
Beaucoup, et il était très copain avec mon père d'ailleurs. Et le soir, au moment de passer en scène, il vient derrière moi, il y a une main qui se pose sur mon épaule, c'était Georges. Je regardais la salle, il me dit « t'inquiète pas, ils sont peints sur leur fauteuil, ils sont gays comme des pinces à linge.
» Ça c'était Georges Brassens. Gilbert Bécaud.
Gilbert Bécaud, bon, qui m'a connu. Bon, moi, je l'ai connu en tant que pianiste de papa.
Et oui, et c'est ça. Après, donc, ce que vous disiez tout à l'heure, il a commencé comme pianiste de Jacques Pils. Hein. Mais après,
et
il devient une grande vedette.
Je l'ai connu chez Piaf, où il venait me chercher au collège. Parce que j'étais collégienne à l'époque, quand je venais passer mon week-end chez Edith. Il venait me chercher à la sortie du collège. Et puis après, ma première télévision à New York, je l'ai faite avec Gilbert.
Avec Gilbert Bécaud.
Quand j'ai gagné l'Eurovision.
Bête de scène.
Et ma première grande scène après l'Eurovision, ça a été avec Charles Aznavour. À l'Alhambra.
Alors ça s'est passé comment là?
Superbe, magnifique. Ouais. Parce que papa était un grand ami de Charles et lui avait dit « s'il m'arrive quelque chose, Charles, j'aimerais bien que tu t'occupes de Jacqueline ». Et il a tenu promesse jusqu'au bout. Et dès que j'ai gagné l'Eurovision, il a tout de suite voulu me prendre avec lui. Et j'ai fait plein de tournées avec lui, en France, au Japon, au Canada, à Londres, au Palladium de Londres. Enfin, c'était fabuleux. Hein. Il m'a même écrit des chansons, Charles.
On le salue, Charles Aznavour.
Oui, j'adore.
On évoque aussi, encore un dernier, Tino Rossi.
Tino Rossi, j'ai fait 18 mois de tournée avec Le Temps des Guitares.
Ah oui?
J'étais sa partenaire. Oui, j'avais une scène d'amour avec lui. Ah, qu'est-ce que vous croyez?
L'opérette?
Oui, le temps des guitares, j'avais repris le rôle de Josie Andrieux en tournée.
Ah oui, qui nous en a parlé ici il y a quelques mois, Josie Andrieux. Oui, et vous avez fait toute la tournée, vous?
Oui, oui, toute la France, sous chapiteau avec les Bouglioles. Ensuite, on a fait la Corse, évidemment. Et après, on a fait le Canada. Oui, oui.
Un gentil monsieur, j'imagine.
Adorable. Alors, des fois, il oubliait ses textes. Alors, il me disait, rappelle-moi mon texte. Oh, c'était trop drôle, il était adorable.
Ah ben, ça fait deux opérettes à votre actif,
oui,
alors.
Oui,
hein,
oui, oui, oui.
Après Eugène le Mystérieux.
Oui, oui.
Bon, bah, vous nous disiez justement l'amour de Brassens. Ah, on n'a pas parlé de Trenet.
Trenet, ah, oui. J'ai fait l'Olympia avec lui. Oui. Trois semaines de Trenet, c'était génial.
On disait qu'il n'était pas toujours très, très gentil, Trenet.
C'était Trenet, quoi.
C'était Trenet.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais sur scène, il était fabuleux quand même.
Alors, justement, Brassens, vous nous le disiez, adorer les chansons de musicals d'avant-garde, mais... et notamment celle de Trenet. Mmh. Et on va les retrouver tous les deux tout de suite en duo, Brassens et Trenet, dans une chanson intitulée Le Petit Oiseau.
Petit oiseau dans la campagne, petit oiseau n'est pas bien. Petit oiseau sur la montagne s'en va, je sais quand il reviendra. Petit oiseau dans la nature, ivre d'amour et d'air pur, chante gaiement pourvu que ça dure, ça va, petit oiseau reviendra. Mais le diable qui bat sa femme après 3 litres de vin lance furieux de longues flammes sans fin, petit oiseau pleure en vain. La 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 la. La 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 la. S'il avait écouté sa mère, bien sagement il aurait un bon foyer et un bon lit dans son nid. Ah, s'il n'était pas parti. La 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 la. La 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 la. Vous avez bien compris, mesdames, pourquoi ce regard moqueur. Petit oiseau, c'est mon cœur.
Bravo.
Qui pour vous toutes se meurt.
Super.
Ça vous plaît, hein, Jacqueline Boyer, ce duo, la guitare de Brassens, qui entonne quelques petits morceaux à la fin avec son ami Trenet. Voilà un joli document et une époque que vous faites revivre dans Histoire de trois vies extraordinaires. Il faut bien qu'on précise, donc, Jacqueline Boyer, il y a trois versions, si on peut dire, trois déclinaisons de cette
histoire. Il y a le livre.
Vous avez d'abord écrit le livre. Vous n'aviez pas, pour l'instant, à ce moment-là, l'envie d'aller plus loin. Vous voulez juste rassembler.
Voilà.
Des photos, des souvenirs.
Voilà, je voulais surtout parler de maman.
Vous vouliez parler
parce
de votre mère.
Parce que quand même, elle a fait une carrière extraordinaire. Elle a ouvert la porte.
On dit quelquefois que ces dernières années n'étaient pas très heureuses, Jacqueline Boyer. Parce que quand on a été une si grande vedette, c'est pas facile.
C'est difficile de tourner la page. C'est pas facile. Oui. Surtout avec la carrière, parce qu'elle a eu quand même la première carrière dans les années 30 et ensuite dans les années 50.
Mais elle a eu, si j'ose dire, dans ces dernières années, et comme vous d'ailleurs dans vos encore jeunes années, un complice qui a contribué aussi à faire encore beaucoup parler d'elle, c'était Pascal Sevran.
Ah ben heureusement que Pascal a fait quelque chose pour la chanson française et pour les chanteurs quand même.
Il a écrit un livre d'ailleurs sur
Lucienne. Oui, super, oui, La Dame en Bleu.
Voilà, et il a écrit des chansons pour vous.
Oui, avec Pascal Auria. Si quelqu'un vient vous dire...
Et d'autres encore.
D'autres encore. Et maman a repris certaines chansons de Pascal, absolument, oui.
Donc vous avez écrit ce livre pour rendre hommage d'abord à votre mère.
Pour rendre hommage à maman, pour la carrière qu'elle a faite, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que maman a ouvert la porte. Même à Edith Piaf, à l'époque, quand elle est allée aux États-Unis, elle n'a pas marché. Les Américains n'en voulaient pas.
Non. Il n'y avait que Chevalier.
Il y avait Chevalier, Sablon. Il y avait Lucienne Boyer, et parce que ils ont été très surpris de voir arriver cette petite femme en robe noire, qui était tout à fait le contraire des femmes plantureuses et belles comme Rita Hayworth, Lucienne Boyer, tout ça. Donc, et puis bon, finalement, après, est venu le grand succès au Versailles. Voilà. Mais au départ, elle n'avait pas été bien accueillie.
Alors, il faut dire que ce livre est plein de photos extraordinaires,
et
comme le titre, et d'anecdotes, histoire de trois vies extraordinaires. Ça, c'est paru chez un éditeur...
Écoutez, c'est paru chez les Allemands et les Suisses, parce que comme les Français, décidément, j'attends toujours leur réponse. Alors,
mais on le trouve sur Internet.
Oui, on le trouve sur Amazon, il n'y a pas de problème.
Bon, alors, dans un deuxième temps, donc, vous vous êtes dit, tiens, je vais l'enregistrer, mon livre.
Oui, et alors, je l'ai donc enregistré d'une pierre deux coups, donc c'est moi, alors, je reviens à mes premières amours en tant que comédienne. Et ce disque, je l'envoie à mon amie Janine Amadou, qui est donc la compagnie des Lutins. Dès qu'elle entend ça, elle me dit « Mais il faut en faire un spectacle, il faut que tu le joues sur scène. » Et c'est comme ça que c'est parti, où nous avons contacté Philippe, etc. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça a démarré.
Donc vous l'avez donné une première fois ?
Une première fois, c'était en présentation en décembre, dans le 9e.
Dans le 9e arrondissement à Paris. Vous étiez content de...
Ah, j'étais ravie. J'étais ravie.
Revivre tout ce monde.
Ah oui, j'étais contente. Ouais, ouais.
Un bel accueil, vraiment.
Très, très bel accueil. On était ravis, vraiment.
Bon, bah donc on espère la suite, on va suivre tout ça également sur Internet.
Oui, 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 oui.
Le spectacle s'appelle...
Histoire de trois vies extraordinaires.
Voilà, allez pianoter sur vos ordinateurs dans les mois qui
avec
viennent.
Avec Jacqueline Boyer, Philippe Padovani et Alain Delay.
Les représentations. Et puis tiens, vous m'avez dit, quand on préparait l'émission, voilà, tiens, on pourrait écouter Johnny, on pourrait écouter Eddie Mitchell. Je disais, voilà, vous n'êtes pas rancunière avec les yéyés.
Pourquoi non ? Je suis, hein, il n'y a
Eddie
pas de
Mitchell,
raison.
Eddie Mitchell, la tribu,
la tribu,
ça
fait
vous plaît ?
Partie de la même tribu, j'adore. Ah oui, ouais. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
On est tous issus de la même tribu, mais on n'a sûrement pas le même totem. On a tous craqué un jour sur Je t'aime. Dans le micro, c'est bien connu. On est tous issus de la même tribu. On a nos manitous, nos grands sachem. Pour le grand public, on est le star system. Des héros vus et connus. Toi tu viens des beaux quartiers, moi de la rue où je suis né. Mais nos sens sont métissés, pacifiques ou bien guerriers. On n'a pas le même totem, mais on est de la même veine. Différents individus de la même tribu. On a quelque chose de Tennessee,
de Belle-Île en mer ou de Lucie. Foule sentimentale,
femme je vous aime, c'est la vie, mon chéri.
On a nos Mistral gagnants,
Aline sur le sable blanc.
Mais y'a des embouteillages
dans nos cœurs à tous les âges. Mercenaires, sans foi ou ingénus, tous issus de la même tribu. Nous on est nés quelque part,
peut-être dans une boîte de char.
Destin tous européens,
est-ce un mal ou un bien? Nous on veut que le bonheur,
peut-être en apesanteur.
Vous vivez d'espoir
comme un manouche sans guitare.
On est tous issus de la même tribu.
Eddie Mitchell et ses amis dans la même tribu, un choix de mon invité Jacqueline Boyer qui est ici en compagnie de Philippe Padovani. Vous avez des projets, Philippe Padovani, dans le domaine du spectacle, en dehors de celui de Jacqueline Boyer?
Alors, déjà la semaine prochaine, il y a par notre productrice commune, Janina Malédu, un festival intergénération dans le 93, qui est le premier festival de Saint-Denis. Et donc, il y a deux représentations. D'ailleurs, Jacqueline est la marraine, de ce festival, avec donc une autre artiste, Eva Marchal. Donc il y a Jacqueline Boyer et Eva Marchal qui sont marraines de ce festival. Et c'est donc vendredi prochain,
c'est
samedi. Alors oui, c'est un spectacle de montage qui mêle aussi les arts du cirque, mais sur le handicap. Ah, voilà. Puisque ça va être l'histoire d'une jeune fille sourde que ses parents veulent mettre en clinique. Elle va se sauver, elle va rencontrer des gens du cirque et elle va, au fil des bruits qu'elle va entendre, se métamorphoser pour réagir aux bruits et à la voix de ce qu'elle entend. Et c'est un très beau spectacle.
Et c'est la compagnie Les Lutins de la rue Orange.
Voilà. Et c'est le premier festival de Saint-Denis.
Nous sommes les Lutins.
Nous sommes les petits lutins.
Et dans le domaine de l'opérette, on pourra vous entendre.
Au domaine de l'opérette, alors oui, on va m'entendre à la rentrée dans la cocarde de Mimi Pinson.
Tiens, ah, quelle bonne idée.
À Tourcoing, dont je ferai la mise en scène.
L'opérette patriotique de la Première Guerre mondiale.
Et ensuite,
à Tourcoing.
Et là, dans l'immédiat, au mois de juin, l'Opéra Cheval Blanc.
Ah bah écoutez, ça nous fait très plaisir. Jacqueline Boyer, vous habitez toujours dans les Pyrénées ?
Toujours au pied des Pyrénées, à Saint-Gaudens.
Vous avez trouvé le bonheur là-bas ?
Voilà, le microclimat, les gens agréables, l'accent. Non, c'est très agréable. Au pied des Pyrénées, pas très loin de Toulouse, pas très loin de Luchon, où je rencontre de temps en temps Jean-Jacques Debout, qui vient faire ses courses à Luchon, il habite là-bas.
Debout, bah oui, très bien, oui.
Voilà.
Donc voilà, bah, tout se passe bien. Vous montez à Paris de temps en temps pour nous voir,
par exemple.
Oui, quand il y a des trains. Là, vous repartez dans les Pyrénées.
Je repars en Suisse, là. Je vais aller voir mes producteurs suisses, voilà.
Ben, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Je me suis dit qu'on pourrait se quitter, bah, puisqu'on en a beaucoup parlé d'elle, avec une chanson culte de Lucienne Boyer, chantée par Jacqueline, sa fille.
D'accord.
Parlez-moi d'amour, ça vous va ?
Avec grand plaisir, merci.
Et ben, merci d'avoir été
merci
là,
à vous
deux ce matin. Et à très bientôt.
À très bientôt.
Jacqueline Boyer qui chante « Parlez-moi d'amour », le grand succès de Lucienne Boyer, écrit par Jean Lenoir. Allez, un petit post-scriptum qui ne voulait pas lui donner la chanson.
Il ne voulait pas lui donner Jacqueline la chanson, Boyer. Jean Lenoir, et maman a insisté lourdement pour l'avoir.
Parce qu'il pensait que ce n'était pas pour
non,
elle.
Non, ce n'est pas ton style, il lui a dit, ce n'est pas ton style. Quand même.
Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et on peut retrouver « Histoire de trois vies extraordinaires », version disque, version livre, version spectacle, en tapant ce titre sur Internet et en suivant l'évolution de la production du spectacle au cours des mois à venir.
Thank you.
Café viennois, une composition de Robert Stolz avec l'Orchestre symphonique de Berlin, dirigé par le compositeur.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et avant de nous quitter, je voudrais vous signaler que le coup d'envoi est donné pour toute une production qui va tourner dans plusieurs lieux, des Petites Michues, un des chefs-d'œuvre d'André Messager. J'en ai souvent parlé dans cette émission depuis qu'elle existe et j'y reviendrai au mois de juin, puisqu'au mois de juin, on aura toute une série de Petites Michues, donc au théâtre de l'Athénée à Paris. Mais le spectacle, il commence dès demain à Nantes, 13 mai, ensuite à Angers. Il sera donné plusieurs fois à Nantes et je ne saurais trop vous recommander donc de découvrir cette opérette qui date de 1897, qui est un petit peu, on pourrait dire presque l'esquisse de Véronique. La musique est aussi raffinée, aussi joliment tournée, comme souvent chez Messager. Les Petites Michues, voilà, sont deux petites jeunes filles. Il y a une histoire de confusion au moment de leur naissance, comme souvent dans l'opérette. Ça se passe en grande partie dans les Halles de Paris. C'est un spectacle qui est mis en scène par Rémi Barchet et dirigé par Pierre Dumousseau. Nous, on va écouter un enregistrement issu des années 50, un très joli enregistrement, où justement, vous avez le côté un peu frivole des deux Petites Michues qui sont chantées par Liliane Berton et Nadine Renaud. Et puis, la voix beaucoup plus romantique d'un de leurs amoureux, Gaston, qui est chanté par Camille Moran. C'est vraiment de la très jolie musique française.
Michu,
Michu, Michu, oui, tel est capitaine, le nom qui nous est évolu.
Michu,
Michu, Michu, et puisqu'il faut qu'on vous l'apprenne, c'est nous les petits de Michu.
Michu, Michu,
c'est nous les petits de Michu.
Deux sœurs alors,
deux sœurs jumelles.
Le ciel, en vous faisant toutes deux aussi belles, n'a pas voulu sans doute égarer ses faveurs. C'est pour cela, mes demoiselles, qu'il vous a faites sœurs.
Monsieur, monsieur, pas de galanterie.
Et vous, pas de coquetterie, je parle très sincèrement. Il ne pourrait dire vraiment qui de vous est la plus jolie. Elles sont ravissantes, jamais, non, jamais je n'ai vu de jeune fille plus charmante que les deux petites Michues.
Oui, Benoît, elle est capitaine, le nom qui nous est dévolu. Et puisqu'il faut vous l'apprendre, c'est nous les petites Michues.
Mais en ce cas, il faut que je m'accuse. Je viens d'être fort maladroit et de vous faire un passe-droit, une injustice sans excuse.
Comment ? Comment ?
Entre deux sœurs, il est d'usage, n'est-il pas vrai, qu'on se partage toutes choses équitablement?
Certainement, évidemment.
Donc, puisque tout est commun à chacune, tout à l'heure, en embrassant l'une, devais-je pas embrasser l'autre aussi? C'est le là comme c'est le ci.
C'est fort logique, très véridique.
Eh bien alors, j'ai des remords.
Mon capitaine, ne soyez pas en peine, ce baiser-là, ma sœur me le rendra. Oui, tout s'arrangera comme cela, mon capitaine, oui, tout s'arrangera comme cela. Ce baiser-là n'est pas perdu. Rien ne se perd chez les Michus, ce baiser-là n'est pas perdu. Rien ne se perd chez les Michus, rien ne se perd chez les Michus.
Elles sont ravissantes, jamais, non, jamais je l'ai vue. Jeune fille plus charmante que les deux petites Michues.
Oui, elle est la capitaine, le nom qui nous est dévolu. Et puis si j'en apprends, c'est les petites
Michues. Michu, 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 ce sont les petites Michues.
Liliane Berton, Nadine Renaud, Camille Moran sous la direction de Jules Gressier. Dans cette opérette d'André Messager, Les Petites Michues, à redécouvrir à partir de ce week-end à Nantes, puis à Angers, puis au mois de juin à Paris. Je vous en reparlerai.
What you gonna play now?
Bobby, I don't know. But whatsoever I play, it's got to be funky.
Yeah.
One, two, three, make it funky.
Make it funky.
Vous écoutez bien Étonnez-moi Benoît, la seule émission où l'on passe d'André Messager à James Brown, ici dans un enregistrement de 1971. Mais vous savez, c'est un de mes dieux musicaux, James Brown, j'aime bien en passer un peu de temps en temps. Make it funky. Vous avez peut-être remarqué que dans cette chanson, à un moment donné, il dit, comme souvent dans ses chansons, we go to the bridge. Le bridge, c'est le pont en musique. Mais évidemment, quand on traduit ça en français, ça fait un petit peu bizarre. Et j'ai ressorti ça pour vous, cette chose amusante qui est une transcription en français du plus célèbre succès de James Brown, Sex Machine. Ça a été fait en 1990 et toutes les paroles sont rigoureusement traduites, ce qui donne un résultat très comique et extrêmement bizarre. C'est le groupe qui s'appelle Les Éponges, donc, qui nous donne sa version de Sex Machine. Voilà, monte dessus, get on up, évidemment. Mais alors là, malheureusement, c'est la version, un mixage radio où il n'y a pas toutes les paroles. Je vous le ressortirai très très prochainement, ce Machine à sexe chanté par Les Éponges. Voilà, il ne nous reste plus, avant de nous quitter, que le temps d'écouter un petit galop. Et c'était donc le groupe Sortie d'artiste dans Saga, une composition de Francis Poppy qui terminait cette émission. Une émission préparée par Annie Comier avec à la technique Adelino Mello, Morgane Danon, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain pour un prochain épisode d'Étonnez-moi Benoît où j'accueillerai monsieur Daniel Prévost. Bon week-end à tous.
À réécouter sur francemusique.fr.